9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Je reçois ce matin Jérémy Pelletier pour son livre « La fête est finie ». La grande fête du retour à la vie post-Covid n'aura jamais lieu d'après lui parce que la France a renoncé depuis longtemps à la fête et à tout esprit festif. Il va nous expliquer comment et pourquoi. Je reçois également Xavier Giannoli pour son film « Illusion perdue » qui sort mercredi en salle, adapté du roman de Balzac avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan et Gérard Depardieu. Il nous raconte rien moins que la naissance du journalisme, de la publicité, des fake news, des clashs et des fausses polémiques au début du 19e siècle. Et l'on commence tout de suite cette émission avec Marie Dosé qui lance un pavé dans la mare avec son éloge de la prescription. Rendre imprescriptible de plus en plus de crimes est devenu un refrain entonné par beaucoup de monde, notamment dans les affaires de viol, de pédocriminalité, de terrorisme, d'assassinat d'enfants ou de policiers. Marie Dosé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris et vous publiez « Éloge de la prescription » aux éditions de l'Observatoire. Vous rappelez qu'il s'agit d'un principe fondamental qui a toujours existé. Alors pourquoi fondamental ?
Fondamental parce que c'est un principe d'abord qui nous aide à lutter contre l'arbitraire. Le temps de la preuve, lui, n'est pas éternel. Donc plus le temps passe et moins on dispose d'éléments de preuve pour pouvoir condamner. Donc c'est aussi un instrument qui permet de lutter contre l'arbitraire d'une condamnation sans preuve et de poursuite éternelle.
En général, la prescription, c'est 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions. Mais il y a des exceptions. Hein. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Les crimes de guerre, les crimes terroristes, le trafic de drogue en bande organisée, la prescription, c'est au bout de 30 ans. Les crimes sexuels sur mineurs, c'est 30 ans après la majorité de la victime, donc plus tard qu'un crime de guerre ou qu'un attentat terroriste, on se dit forcément, si on peut faire des exceptions tout le temps, pourquoi pas en faire pour tout ?
Oui, en réalité, il ne reste plus grand-chose de ce principe fondamental. Hein. À force de nourrir les exceptions, le principe n'existe carrément plus, quasiment plus. C'est-à-dire que quand on y réfléchit à l'échelle d'une vie humaine, je vois mal comment, dans les années qui viennent, on va pouvoir se heurter à un moment donné à la prescription. Parce qu'il y a aussi l'interruption de la prescription, la suspension de la prescription, les infractions qui sont occultes ou dissimulées. Et là, le point de départ, c'est au moment où on les découvre. De plus en plus d'infractions ne sont plus ce qu'on appelle des délits instantanés. Donc, oui, réellement, je crois qu'à force de réformer les réformes et puis du fameux phénomène un fait divers, une loi ou une émotion populaire, une loi, la prescription est en train de perdre petit à petit de son efficience.
Mais vous le dites vous-même, Marie Dosé, la mémoire est forcément vertueuse. C'est comme ça qu'on le voit. Et forcément, l'oubli est préjudiciable. Si on oublie, c'est au mépris des victimes. Or, la prescription, c'est justement parce que la société, à un moment, veut qu'on oublie.
C'est pas tout à fait ça. La prescription, ça n'est pas dire il n'y a pas eu de crime. C'est dire on ne peut plus poursuivre les faits que vous dénoncez. On ne peut pas prendre le risque de les poursuivre parce qu'on n'a plus les moyens de le faire. C'est ça qui est important. Et la mémoire, elle ne sert pas qu'à se souvenir. Elle doit servir aussi à oublier. Je sais, parce que j'en défends des victimes, à quel point, non, c'est pas vrai. On n'oublie jamais. On n'oublie jamais, dans le sens premier du terme, le mal qui vous a été fait dans la chair, la violence de ce qui vous a été fait. On arrive à le ranger quelque part. On arrive à maîtriser cette propension du mal qui vous a été fait à être ravivé sans cesse. On arrive à un moment d'une vie, on y parvient à force de travail, notamment de travail psychologique, on parvient à maîtriser cela. Mais ça n'est pas de l'oubli en soi. Et la prescription, c'est pas l'oubli judiciaire, c'est pas dire vous ne l'avez pas vécu, c'est pas ça. C'est juste de dire ce que vous avez vécu, nous en avons eu connaissance trop tard pour pouvoir le poursuivre. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il faut développer d'autres mécanismes que le judiciaire. Le recueil de la parole des victimes doit se faire aussi ailleurs, quand ce n'est plus possible.
Mais il y a l'impunité aussi, l'impunité des coupables, et ça c'est de moins en moins supportable.
Oui, on est aujourd'hui dans une société qui veut poursuivre nécessairement, toujours, tout le temps, et sans cesse. Mais je vais même vous dire, celui qui est puni, même à la fin de l'exécution de sa peine, ça ne va pas. C'est pas suffisant. C'est-à-dire, bon, je fais une parenthèse, mais on l'a vu pour Bertrand Cantat, c'est-à-dire qu'il a purgé sa peine, on est d'accord, il a été condamné, il a purgé sa peine. Bon, ben, il en a été jusqu'à verser la peinture rouge sur ses spectateurs en hurlant le sang de Marie pour l'obliger à terminer sa tournée. Ça n'était pas fini. C'est le bannissement. C'est-à-dire qu'on est plus aujourd'hui dans une société qui veut bannir que punir parce qu'on veut des poursuites éternelles. Et même après que la peine ait été purgée, on veut toujours poursuivre. Et ça, c'est une société qui souffre et qui va mal. Une société qui est toujours en colère contre elle-même. Vous savez, à un moment donné, moi j'ai le sentiment qu'on enferme celui qui a commis un crime dans son crime jusqu'à la fin de ses jours, et qu'on enferme du coup la victime qui a subi ce crime dans son traumatisme. C'est pas l'aider. C'est pas l'aider du tout.
Imagine-t-on ce que serait un État qui poursuivrait sans fin les crimes et les délits? Vous posez les questions dans votre livre. Ça ressemblerait à quoi?
Le règne de l'arbitraire et de la vengeance. Voilà, ce serait probablement, à mon humble avis, la fin de l'État de droit. D'un côté, on aurait nécessairement beaucoup plus de décisions de relax, d'acquittement et de non-lieu, parce qu'on n'aurait pas la preuve. Donc on nous expliquera que la justice, elle n'écoute pas les victimes, qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elles ont vécu, et puis que c'est une justice patriarcale, par exemple. Mais de facto, on aura d'autant plus de décisions de relax et d'acquittement parce qu'on n'aura pas la preuve. Mais en même temps,
il y a l'ADN aujourd'hui qui a beaucoup changé.
Mais c'est pour ça qu'attention, hein, moi je suis tout à fait pour, et je l'écris, il était nécessaire en 2017 de doubler le délai de la prescription de prescription de l'action publique. On est passé de 10 à 20 ans pour les crimes et de 3 à 6 ans pour les délits.
À cause de l'ADN.
Oui, j'ai pas, en tout cas des progrès techniques, et j'ai pas de difficulté là-dessus, c'était nécessaire. Mais attention, on est en train aussi de tricher, c'est une véritable escroquerie. Quand on vous dit aujourd'hui, vous vous rendez compte, il faut réformer, c'est scandaleux, le frère de Camille Kouchner ne peut pas déposer plainte, c'est prescrit. Ou Vanessa Springora ne peut pas déposer plainte, c'est prescrit, c'est scandaleux, il faut réformer la loi. Mais elle l'est déjà. On nous ment. On confond deux principes, la non-rétroactivité de la loi pénale et la prescription. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on peut déposer plainte jusqu'à ses 48 ans.
Camille... Oui, 30 ans après sa majorité.
Exactement.
Dans le cas des deux personnes que, dont vous parlez.
Et quand elles dénoncent ces faits-là, elles ont moins de 48 ans. Mais seulement la loi qui s'applique à ce moment-là, c'est celle qui était en vigueur il y a 20 ans quand elles ont subi ces faits. La loi n'est pas rétroactive, c'est tout à fait normal, mais on a déjà pris en considération tout cela. Et pourtant, tous les projets de loi et toutes les propositions de loi commencent par « c'est scandaleux, nous sommes confrontés à la prescription de certains crimes, il faut réformer ».
On fait une pause, Marie Dosé, on en reparle juste après.
9h-10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On est toujours avec Marie Dosé, avocate au barreau de Paris, qui publie Éloge de la prescription. On accepte l'imprescriptibilité pour les crimes contre l'humanité. Or, s'attaquer à un enfant, violer une femme, décapiter un professeur, c'est nier leur humanité. C'est un crime que l'on commet contre le genre humain dans son entier. C'est aussi pour ça que les gens se disent « mais pourquoi ceux-là sont prescriptibles ?»
Non, 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 ce n'est pas la même chose. Je pense que quelle que soit l'émotion et l'horreur que cela suscite, et nous en savons tous quelque chose, et effectivement, cela nous concerne tous. Lorsqu'un enfant est violé, lorsqu'un professeur est décapité, ça n'est pas un crime contre l'humanité dans le sens juridique du terme. Un crime contre l'humanité, c'est un crime systématique contre toute une population. Un enfant n'est pas toute une population. Un professeur n'est pas toute une population. Symboliquement, j'entends ce que vous dites, mais la gravité n'est pas la même. Et c'est important, à un moment donné, de hiérarchiser des crimes. Je suis désolée, mais il faut que les crimes contre l'humanité restent imprescriptibles, évidemment. Et il faut prendre en considération le fait qu'un enfant ne puisse pas déposer plainte et puisse le faire à compter de ses 18 ans. Ça, c'est une évidence aussi. Mais un crime commis contre un enfant n'est pas un crime commis contre l'humanité. Ça n'est pas la même chose.
Quand il n'y a pas de procès et quand les crimes ont été prescrits, il n'y a pas de procès. On ne peut pas faire son deuil, entend-on dire. Les procès seraient nécessaires pour les victimes et pour leurs proches.
Oui, c'est faux. C'est faux et qu'est-ce que ça voudrait dire? Toutes celles qui ont, ou tous ceux qui ont été agressés, violés ou malmenés par des agresseurs dont on ne connaît pas l'identité, ne feront jamais leur deuil, n'ont jamais pu faire leur deuil. C'est pas vrai. Faire dépendre du sort judiciaire de l'accusé la réparation de son traumatisme, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, je reçois des victimes dans mon cabinet. Et très souvent, je leur dis, voilà, vous avez fait le plus gros, vous avez fait le plus beau, vous avez déposé plainte, vous avez saisi la justice. Moi, je suis votre avocat et je vais m'occuper de cette page judiciaire. Vous allez vous réparer ailleurs. Le procès n'est pas là pour vous réparer. Il n'y a pas de vertu cathartique, thérapeutique au procès. Il a désormais rendez-vous, lui, avec la justice de son pays et vous avec une réparation qui ne se fera pas dans le temps du procès. Il y a des miracles d'audience, ça existe. Mais vous savez, pour la plupart des victimes, la procédure judiciaire, elle ravive souvent le traumatisme. Il faut raconter à nouveau, il faut se confronter parfois à quelqu'un qui ne reconnaît pas les faits. Et puis même quand il le reconnaît, je le sais, je suis en audience, quand il le reconnaît, les faits, ça ne va jamais. Soit il dit pardon... Et on se dit, il le dit parce qu'il veut pas aller en prison ou parce qu'il espère une peine moindre. Soit il reconnaît les faits, mais il fallait le dire plus tôt ou alors avec plus de sincérité. C'est normal, c'est normal. Le temps judiciaire n'est pas le temps de la guérison.
Notre sollicitude envers les victimes est telle que les magistrats ouvrent aujourd'hui des enquêtes préliminaires sur des faits pourtant prescrits. Comment l'expliquez-vous ?
Nous l'avons dénoncé, hein, plusieurs de nos confrères, parce que là, je pense qu'on va très vite être piégé à ce jeu-là. Pourquoi ? On ouvre des enquêtes préliminaires sur des faits prescrits et nécessairement, durant l'enquête préliminaire, on mène des investigations. À la fin de l'enquête préliminaire, le procureur de la République se permet de dire « les faits sont certes prescrits, mais l'infraction pourrait être constituée ». Mais ça, c'est la judiciarisation du doute. Le procureur, ce n'est pas un magistrat indépendant. C'est-à-dire que celui qui clame son innocence, qui crie son innocence, pour lui, les faits sont prescrits. Il ne pourra jamais être jugé devant un tribunal correctionnel, jamais rencontrer un juge indépendant. Et par contre, on dira, classement sans suite, c'est prescrit, mais double peine. Si ça l'était pas, ça pourrait quand même être constitué, vous pourriez quand même être coupable. Mais imaginez-vous, là, c'est même plus une offense à la présomption d'innocence. Non, c'est la judiciarisation du soupçon. Nous sommes quand même dans un pays où le proverbe préféré des Français, c'est « il n'y a pas de fumée sans feu ». On ne s'en sortira pas de ce genre de pratique.
Mais justement, l'ultra-judiciarisation que l'on connaît aujourd'hui, vous dites qu'elle participe de l'infantilisation de nos sociétés. Pourquoi ?
Parce que je pense qu'on investit beaucoup trop le champ judiciaire et qu'on fait croire, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, aux victimes qu'elles iront mieux si leur bourreau est lourdement condamné et que tant qu'il n'est pas condamné, elles ne peuvent pas se réparer, ce genre de choses. Je pense très sincèrement que ça, oui, ça participe à une forme d'infantilisation. Ce qui nous a été fait doit être réparé entre soi et soi. Mais il y a des mécanismes qui sont prévus, et notamment dans notre droit. Mais on ne met pas assez de moyens dans ces mécanismes-là. Je parle aussi de la justice restaurative. Il est temps que la parole des victimes se répare ailleurs que dans le judiciaire, mais pas sur la place publique, parce que là non plus, ça ne les aide pas à être marquées au fer rouge de ce qu'elles ont vécu. La justice restaurative, il y a des choses merveilleuses qui sont faites. Des rencontres entre les victimes et les condamnés. Et des rencontres en dehors de tout dessein judiciaire, en dehors de toute velléité de voir la justice rendue, c'est pas ça. Moi j'ai rencontré des victimes et d'ailleurs des condamnés, les deux qui ont participé à ce genre de rencontres, et des victimes qui disent « mais jusque-là j'avais peur qu'il sorte, celui qui m'a fait du mal, j'ai plus peur ». J'étais obsédée par la question, maître, j'étais obsédée par la question « pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi ?» Eh bien de les rencontrer, de les écouter, je me rends compte qu'en fait, c'est pas moi. Ça aurait pu être n'importe qui. Ce genre de choses. Et plus fort encore, je me souviens d'une victime qui m'a dit, depuis le début, je lui dis, mais comment il a pu passer à l'acte ? Pourquoi il a fait ça ? Qu'est-ce qui l'a motivé ? Et je me rends compte d'une chose, c'est qu'il se pose la même question que moi. Et ça m'a fait du bien. C'est ça qu'il faut travailler. Voilà, ça, c'est pas de l'infantilisation. C'est un vrai travail de réparation. Il serait peut-être temps qu'en France... On met des moyens dans ce travail de justice restaurative.
Merci Marie Dauzé d'être venue dans cette émission. Éloge de la prescription, ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. On fait une pause, on se retrouve avec Jérémy Pelletier pour son livre « La fête est finie » aux éditions de l'Observatoire, comme le vôtre. Mince, c'est un hasard dont je demande à tous les autres éditeurs de bien vouloir m'excuser, ça ne se reproduira plus.
Oui, c'est une excellente maison d'édition.
Merci Marie Dauzé.
Merci à vous.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour.
Vous avez 30 ans, vous êtes directeur des études à la Fondation Jean Jaurès et vous publiez « La fête est finie » avec un point d'interrogation aux éditions de l'Observatoire. Une étude qui a d'autant plus de mérite et d'intérêt qu'elle est bien la seule. Hein. Il y a de nos jours des fêtes de tout et de n'importe quoi. Fête du livre, fête des lumières, fête de la citrouille, fête de la science. Mais la fête, la vraie, on ne sait plus très bien ce que c'est. Est-ce que c'est le Covid qui en a eu raison ?
Justement, ce que j'essaie de dire en tout cas dans le livre, c'est que... on fait poser beaucoup de choses sur le dos du Covid, sur les épaules du Covid. On parle de la fin des boîtes de nuit comme étant l'une des conséquences du Covid, de la fin et la fermeture d'un certain nombre de bistrots comme l'une des conséquences et l'une des causes de Covid. Or, je pense que le délitement de la fête, tel que j'essaie en tout cas de l'expliquer dans le livre, était quelque chose qui préexistait à la crise, 10 ans, 20 ans, voire 30 ans avant la crise, et que justement, le délitement des boîtes de nuit, le délitement des bistrots, le délitement de ce que j'appelle les balles populaires, tout ça était quelque chose qui préexistait à la crise, qui ont été évidemment accélérés par la crise et par les effets de la crise et par les effets des confinements. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est que finalement, la bamboche, comme l'a dit le préfet, vous savez, du Centre-Val de Loire, était terminée et était terminée
oui,
bien avant le Covid.
Il faut rappeler, hein, parce que ça, c'est à l'automne 2020, au moment où on va reconfiner. Et le préfet du Val de Loire, très, très fier, dit la bamboche, c'est terminé. Au même moment, le préfet de police de Paris interdit la musique sur la voie publique.
Absolument.
Donc, il y avait vraiment... Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de sauver la fête comme on a parlé de sauver la culture ou le petit commerce ou les restaurants. Hein.
Si très peu de monde... s'est offusqué de la fin de la fête, si très peu de monde s'est senti triste du fait de la fin de la fête et de l'absence de fête et de capacité à faire le fête pendant la crise et pendant les confinements, c'est que finalement peut-être que la fête et les moments festifs étaient déjà quelque chose de non essentiel dans la vie des individus et pas uniquement au moment du Covid.
Alors il se trouve que pendant la pandémie, on peut comprendre hein, pourquoi on a interdit les rassemblements et notamment les rassemblements festifs, c'était vraiment pas très indiqué vu la contagion du virus, mais les fêtes étant interdites, elles sont redevenues exceptionnelles. Et c'est-à-dire, ce que vous décrivez comme était la fête autrefois, un moment séparé du reste. Ce qu'elle a cessé d'être par la même occasion, elle est redevenue pendant le Covid.
Même ces fêtes clandestines-là étaient touchées d'un des mots, en tout cas, dont je parle dans le livre, c'était le fait de mettre en scène et de faire voir qu'on était en train de fêter. J'étais très surpris de voir que les gens en train de faire des fêtes clandestines finalement se faisaient pincer parce qu'ils mettaient sur les réseaux sociaux, ils mettaient sur Instagram, ils mettaient sur Facebook le fait d'être en train de fêter. Or, et c'est ce que je dis dans le livre, la fin de la fête pour moi débute ou commence à partir du moment où on fête plus qu'on est en train de fêter plutôt que de la faire.
Alors si Paris n'est plus une fête et si le reste de la France non plus, pour vous ça s'explique comment? Qu'est-ce qu'on a perdu d'après vous?
Alors je pense que d'abord on a perdu une forme d'insouciance, une forme de légèreté. Vous parlez de Paris, évidemment, j'en parle dans le livre. Je pense que l'impact de l'année 2015, l'impact des attentats, et notamment des attentats de novembre sur les terrasses, ont eu évidemment des conséquences très importantes. C'est-à-dire que quand bien même on a essayé de surjouer, vous savez, le côté retour en terrasse, génération terrasse, on ne peut pas refaire la fête de façon légère, de façon spontanée, quand un événement comme ça s'est produit. Je pense que c'est ça qu'on a perdu, une partie de légèreté, une partie d'insouciance. Et je pense qu'un des éléments qui est très important qu'on a perdu par rapport au fait il y a 20, 30 ans ou 40 ans, c'est le rapport au collectif. Finalement, la prise de risque de rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, la prise de risque que vous prenez en passant une soirée qui n'était pas prévu, qui n'était pas programmé. Et ça, je pense que c'est l'une des conséquences, en tout cas, de quelque chose, évidemment, qui dépasse la fête, qui est l'individualisation de la société, le recroquevillement sur sa sphère personnelle et la montée aussi de la question sécuritaire.
Vous dites que notre époque est devenue une thérapie géante, fabriquant à la chaîne des êtres toujours plus malheureux et fiers d'exprimer leur malheur. C'est vrai que ça, c'est un peu incompatible avec la fête.
Absolument. Je dis dans le livre qu'on a une cohorte de Jean Moulin en jean moulant qui viennent en fait gâcher la fête. Je ne dis pas qu'évidemment il ne faut pas défendre un certain nombre de causes, la lutte contre l'homophobie, l'égalité femmes-hommes, les questions antiracistes, etc. sont des questions très importantes, fondamentales. Mais ce que je dis dans le livre, c'est que la fête, entre guillemets, doit rester en dehors de ça. Vous l'avez très bien dit au début, la fête est un moment qui est séparé du reste de nos vies ordinaires, qui est séparé du reste de la vie quotidienne. C'est normalement un moment où on laisse nos problèmes de cœur, nos problèmes d'argent, nos problèmes de couple et les sujets sociétaux en dehors de la piste de danse. Or, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, effectivement, on a tendance à instrumentaliser la fête pour justement lui faire porter un certain nombre de messages sociétaux, un certain nombre de messages politiques. Or, à mon sens, ce n'est pas compatible avec une fête qui doit avoir un esprit léger.
Alors, qu'est-ce qui a tué la fête? Eh bien, on va voir ça après une pause avec Jérémy Pelletier.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et avec Jérémy Pelletier qui publie La fête est finie avec un point d'interrogation. On ne va pas se le cacher, c'est quand même la télé qui a tué la fête, non ? Qui a tué les bals populaires, les bistrots. Des bistrots, il y en avait encore 200 000 au début des années 60, quand la télé s'est répandue. Et il en reste quoi aujourd'hui ? 38 800, nous dit l'INSEE, pour l'année 2016. Donc ça doit être encore moins aujourd'hui. La télé, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas encouragé les relations sociales et la fête encore moins.
Non, oui, la télé, d'une façon générale, les écrans aussi, qui ont effectivement contribué à ce recroquevillement sur soi. Et d'une façon générale, le numérique, en fait, a rendu la fête non essentielle pour un certain nombre d'activités. Vous savez, je crois que la fête, au départ, était essentielle, par exemple, pour draguer. Une grande majorité des couples, quand on les interroge sur les conditions de leur rencontre, disent qu'ils sont d'abord et avant tout rencontrés lors des moments festifs, bien avant les cadres professionnels, bien avant le milieu professionnel et bien avant le travail. Bon, aujourd'hui, la fête n'est pas essentielle pour rencontrer quelqu'un avec les applications de rencontre. La fête n'est plus non plus essentielle pour danser. Vous vous baladez un peu sur un certain nombre d'applications, sur un certain nombre de plateformes, vous baladez un peu sur TikTok, vous apercevez qu'en fait, les individus qui se trémoussent en permanence sur les écrans n'ont plus besoin de la fête collective pour pouvoir danser.
Mais
la fête,
si on remonte plus loin, au Moyen-Âge, mais même sous l'Ancien Régime, la fête était associée à la musique. On ne pouvait pas écouter de musique hors des moments de fête.
Absolument.
Maintenant, la musique, comme vous le dites, elle est partout. Elle est permanente.
La musique, elle est partout. La musique, elle est permanente. On est en permanence, évidemment, avec nos AirPods, qui ne sont d'ailleurs eux-mêmes non plus reliés à nos téléphones, ce qui indique une nouvelle fois d'ailleurs que on est de moins en moins relié à quelque chose. Et effectivement, le fait d'avoir des écrans, le fait d'avoir le numérique rend quasiment obsolète au fait la présence d'un DJ. Finalement, les enceintes Bluetooth, ce que vous avez chez vous, rend non essentielle la présence d'un DJ pour mettre de la musique chez vous, avec un élément aussi très important. Quand il y avait des enquêtes en 2015, on interrogeait les jeunes habitants de Grande-Bretagne sur les raisons pour lesquelles ils n'allaient plus dans les boîtes de nuit. Et l'un des éléments qui revenait souvent, c'était « mais quand on va dans une boîte de nuit, on passe de la musique que nous n'aimons pas ». Or, quand on est chez nous, eh ben, on peut maîtriser notre musique, on aime bien tout ce qu'on passe, parce que c'est nous, avec notre téléphone, qui maîtrisons exactement chacun des morceaux, chacun des titres, et donc nous sommes très contents. Vous connaissez et vous savez très bien qu'on avait toujours quelqu'un dans nos fêtes qui venait embêter le DJ pour lui demander « tu peux pas passer tel ou tel titre, tu peux pas passer tel ou tel artiste, s'il te plaît ?» Et bien ça, c'est devenu tellement insupportable pour un certain nombre de personnes que maintenant, ils se sont recroquevillés et ils maîtrisent chez eux la playlist.
Mais les fêtes du Festival de Cannes, autrefois mythiques, ont été tuées, par exemple, par le téléphone portable. Hein. À peine arrivés, les invités pouvaient s'enquérir de ce qui se passait au même moment ailleurs. Ils étaient dans l'angoisse de rater quelque chose. Ils n'étaient plus tout à fait là. Ils étaient toujours sur le départ. C'est comme ça que les fêtes sont mortes à Cannes.
Alors c'est très important que vous évoquiez ça, parce que vous savez, il y a un proverbe qui dit « la moitié de la fête est la façon dont on la raconte ». Et effectivement, on a tous le souvenir de grandes fêtes qui se font le samedi soir et pour lesquelles vous prenez un immense plaisir à faire le récit le lendemain avec vos amis, avec votre famille, avec les gens qui étaient ou qui n'étaient pas à votre soirée. Aujourd'hui, la fête, elle se filme en direct, elle se raconte en direct, un peu
sur
comme
sur les réseaux sociaux, sur Instagram,
sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snapchat. Et finalement, vous vous mettez un peu dans la peau d'un journaliste de chaîne d'infos en continu qui vous rend compte minute par minute, vous savez, comme ils disent, de l'évolution de la situation. Et bien maintenant, minute par minute, un fêtard vous rend compte de l'évolution de la situation. Et donc, tout le monde est au courant parmi les gens qui sont avec vous lors de votre fête, et tout le monde est au courant parmi l'ensemble des gens qui n'étaient pas avec vous. Donc à quoi ça sert de la raconter ? Plus rien, parce que tout le monde a tout vu.
La fête donc passe son temps à se regarder, dites-vous, les gens ne font plus la fête, ils fêtent le fait qu'ils fêtent.
Absolument, absolument, ils fêtent qu'ils fêtent, ils se mettent en scène, et donc ils perdent tout ce qui faisait quand même le sel de la fête, c'était la spontanéité, le hasard de ce qui est en train de se passer, le hasard d'une rencontre, le hasard
mais
d'une conversation.
Mais vous oubliez que la fête autrefois, c'était la folie. Je parle alors là, dans un temps qu'aucun d'entre nous n'a connu, mais que ce soit au Moyen-Âge, la fête, c'était un temps tellement séparé du reste de l'existence, comme vous le dites, que les gens devenaient fous, ils faisaient n'importe quoi. La fête de Noël, on l'a raconté dans cette émission, les gens faisaient l'amour dans les églises. Parce que tout à coup, tout était permis.
Mais on revenait après, à une situation entre guillemets normale, plus sérieuse, qui justement permettait à la fête de conserver ce moment où vous pouvez faire un certain nombre de choses a priori interdites, a priori un peu plus éloignées des mœurs, où vous pouvez vous comporter comme un enfant. dans le livre, je dis qu'en gros, la fête est également morte au moment où il y a de moins en moins de séparation entre le moment adolescent et le moment des adultes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand l'ensemble de l'espace public devient une fête généralisée, quand l'ensemble de l'espace public, finalement, bah, vous permet de jouer à l'adolescent avec vos baskets sur votre trottinette, et ben, en fait, à quoi sert la fête alors que normalement, la fête était justement ce moment de retour à l'enfance, ce moment de retour à l'adolescence où vous, justement, vous vous autorisiez à revenir dans un moment adolescent qui n'est plus, évidemment, votre moment aujourd'hui. Mais avec la festivisation générale, avec effectivement cette absence de séparation entre un moment adolescent et un moment adulte, la fête a de moins en moins d'intérêt parce que vous êtes enfant finalement tous les jours, si vous le voulez.
Mais justement, alors cette fête généralisée, permanente, qu'on peut voir notamment dans les grandes mégalopoles, hein, aujourd'hui, elles sont toutes sous l'empire de la fête, on va dire. Il y a tous les week-ends, on vous propose des fêtes, quelle que soit leur nature. Ça, vous l'expliquez comment ?
Alors, il y a un élément qui m'amuse toujours, c'est on dit, vous savez, quand un gouvernement n'a pas d'idée sur la mise en place de telle ou telle politique publique, quand un gouvernement ne sait pas quoi faire pour défendre une cause, il crée une fête. Donc, et vous les avez évoqués effectivement en introduction, la fête de la citrouille ou autre. Bon, donc vous avez la fête du livre, vous avez effectivement la fête de la musique, bien connue. Vous avez la fameuse fête des voisins qui me fait toujours beaucoup rire parce que quand vous avez 70% des appels de la police la première semaine de confinement qui étaient des appels de délation et de dénonciation vis-à-vis de son voisin, j'imagine en tout cas que la fête des voisins quand même est bien mal en point. Vous avez la fête de la science, à l'ère en plus du complotisme, de l'essor des théories du complot, tout cela m'amuse un peu. Donc, et il y a une phrase de Philippe Muret qui est très intéressante, qui dit « Quand on accole le terme de fête à un autre terme, c'est souvent le signe que le terme ne va pas bien. » Donc effectivement, l'exemple que je prends dans le livre, c'est la fête des voisins. Donc c'est une des raisons, ça effectivement, de la festivisation générale. C'est aussi le fait de vouloir un petit peu contrôler la fête. Vous savez, toutes ces fêtes qui se sont organisées en marge et de façon satellitaire au travail. Les after work, tous les pots de départ, les chief happiness officers, vous savez, les responsables du bonheur au travail. Bah, finalement, vous donne le sentiment de vivre la fête au travail, mais pour mieux la contrôler, pour mieux la maîtriser et pour éviter peut-être que vous la fassiez en dehors du cadre professionnel.
La fête est finie, ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci Jérémy Pelletier, on se retrouve dans un instant avec Xavier Giannoli, le réalisateur d'Illusions perdues.
Merci beaucoup.
Autres illusions.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Xavier Giannoli, vous êtes le réalisateur de Quand j'étais chanteur avec Gérard Depardieu, d'À l'origine avec François Cluzet, de Marguerite avec Catherine Froux, et mercredi prochain sort Illusion perdue avec Benjamin Voisin dans le rôle de Lucien de Rubempré, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Jeanne Balibar, Gérard Depardieu. Pourquoi avez-vous voulu faire un film d'un tel chef-d'œuvre romanesque? Vous savez bien que les admirateurs de Balzac vous en voudront toujours un peu de l'avoir mis en image.
Eh bien, s'il se passe le contraire, j'ai fait le film entouré de grands admirateurs de Balzac, certains des Balzaciens d'ailleurs convaincus, des profs. J'ai retrouvé mon prof de quand j'étais à la fac. Et l'idée, c'était de, évidemment, pas colorier les images de ce chef-d'œuvre génial de la littérature, mais c'était d'essayer de faire que le cinéma apporte quelque chose de plus, j'espère, si tant est que ce soit possible.
Et c'est de montrer aussi la modernité de ce dont parlait Balzac, puisque Illusions perdues, c'est l'ascension et la chute de Lucien de Rubempré, qui en montant à Paris va perdre toutes ses illusions, mais c'est aussi la naissance du journalisme que vous traitez en détail dans le film.
Enfin, d'un certain journalisme. Balzac voit naître le monde moderne, surtout celui, il est d'une grande sévérité, de ce qu'on va appeler la presse commerciale. Pour le dire simplement, dans le roman, on voit que des petits journaux, grâce à des nouvelles lois libertaires, fleurissent à ce moment-là dans le Paris de 1820. Et ces journaux ont le pouvoir, par exemple, de détruire une pièce de théâtre et donc de ruiner un théâtre. Et comme des gangsters, ces journalistes ou ces critiques vont voir les patrons de théâtre et les raquettent en disant « Combien tu me donnes pour que je ne détruise pas ta pièce ?» Et en fait, Balzac évidemment prend ça dans un mouvement plus ample et plus intéressant, qui est quasiment un mouvement de civilisation, hein, on pourrait dire, qui est d'un coup un monde, le grand tournant du libéralisme et du capitalisme, d'une société entière qui va s'agenouiller devant l'obsession du profit.
Alors voilà. On voit le journalisme quand même naître sous le triple signe de la corruption, de la fausse nouvelle et de la fausse polémique. Hein. On se fait payer pour une bonne ou une mauvaise critique, pour lancer une fausse nouvelle ou pour lancer une polémique. Mais tout est à vendre, tous les articles étaient à vendre.
Oui, tout est... Mais de toute façon, dans le roman, c'est bien ça qui lui donne une électricité extraordinaire. C'est un monde où désormais tout sera à vendre et à acheter. Et qu'est-ce qui peut rester de vrai, d'authentique ou de beau à partir du moment où un journal, on ne pouvait pas encore dire une radio, ou une télévision deviennent des boutiques où, pour reprendre les mots de Balzac, il faut vendre au lecteur des couleurs, de la couleur qu'il veut.
Oui, c'est exactement ce qu'on reproche aujourd'hui aux réseaux sociaux d'ailleurs. Et on s'aperçoit que c'était à l'œuvre déjà dans ces feuilles qui n'étaient pas grand-chose hein, au départ. C'était des petits journaux qui vendaient de l'opinion. C'était de la presse d'opinion qui vendait de l'opinion.
Ça devenait, les journaux sont devenus à ce moment-là, c'est une espèce de parenthèse de liberté folle. Un peu comme un western avant qu'arrivent les lois qui vont un peu calmer, réprimer tout ça. Et où d'un coup, bah, tout est permis. Et l'important, c'est vendre.
Et les journalistes étaient les rois de Paris, hein, vous le montrez, parce que Rubin Pré ou son ami Lousteau, interprété par Vincent Lacoste, leur influence est considérable. Ils boivent du champagne à longueur de journée, ils séduisent les femmes les plus célèbres et les plus désirables. C'était ça être journaliste aussi à l'époque. Hein.
C'était gangster. Moi, j'ai voulu faire un film de gangster. C'est bien ça qui était extraordinaire quand on lit le roman. C'est un film sur le milieu, qui finalement ne croit en rien d'autre que l'intérêt personnel et le profit. Alors qu'il est question de littérature, de pensée, de poésie, de théâtre. Et moi, c'est ça qui m'a donné envie d'adapter. Et je trouvais que ça a rentré en vibration, en résonance avec l'époque dans laquelle on vit. Qu'est-ce qui a encore du sens dans un monde où la seule chose qui compte, c'est l'événement, le buzz, le taux d'audience ?
Mais là, c'était la naissance aussi de ce que d'autres ont appelé plus tard une sous-culture journalistique, incarnée par Lousteau d'ailleurs, qui méprise les vraies valeurs et les grands artistes.
Mais on est dans un monde de Lousteau. Lousteau, à un moment, dit la plus belle phrase du roman pour moi. Il parle au jeune Rubin Pré, qui est plein d'espoir et d'énergie en débarquant à Paris de sa province. Et il parle de ses renoncements, Vincent Lacoste. Et il dit, alors qu'il s'est complètement compromis justement, il dit « Et pourtant, j'étais bon ». Et il est devenu cynique et il a essayé d'y trouver une forme de panache et d'élégance dans le renoncement. Et du coup, bah, rien ne vaut rien, rien n'a de valeur, rien n'est important. L'important, c'est de s'en sortir, tirer les marrons du feu comme on peut. Et il incarne une sorte de cynisme. Bon, heureusement, il y a le génie, parce que c'est vraiment ça, de Vincent Lacoste, qui lui apporte quelque chose de rieur et de désespéré, donc de profondément humain.
C'est aussi la naissance de la publicité. Les actrices de théâtre, qui sont les stars de leur époque, hein, deviennent d'ailleurs déjà des égéries de marques.
Alors le mot égérie, c'est un mot de la Grèce antique, c'est pas du tout un mot contemporain. Et par exemple, le mot star apparaît à cette époque dans la presse anglaise. Et en fait, Balzac voit naître ce moment où la notoriété va devenir une force de vente. Et n'oublions pas que la dernière image, on peut dire ça comme ça, d'un grand homme de province à Paris, qui est le livre central d'Illusion perdue que j'adapte, c'est une prostituée. Et Balzac, sans être un moraliste énervant, parle de la prostitution de soi-même dans ce monde obsédé par le succès et le profit. Donc évidemment, il voit naître la publicité, il voit naître... En fait, vous savez, Marx est dans les rues à cette époque, hein, au moment où il écrit Illusion perdue. Donc en fait, il voit le monde rentrer dans... pour parler comme les marxistes, dans les eaux glacées du calcul égoïste.
Oui, alors là, vous exagérez un peu, c'est aussi la naissance d'un modèle économique, puisqu'on voit apparaître les rotatives qui vont permettre de faire des journaux à très gros tirage, et c'est là que naît le modèle, c'est-à-dire on va augmenter le tirage de la presse et le nombre des lecteurs en baissant le prix de vente au numéro et en faisant payer de plus en plus cher les annonces publicitaires. C'est un modèle qui va prospérer jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle et qui a permis à des très grands journaux d'exister, notamment aux États-Unis. Et plus généralement dans le monde anglo-saxon.
Mais est-ce qu'on n'y est pas toujours ?
Non, parce que justement, la publicité, d'abord parce qu'il y a moins de lecteurs de journaux du fait de la télévision, puis d'Internet, que la publicité a fui vers Internet et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de modèle économique pour l'information. L'information, ça coûte cher et on ne sait pas comment on va la financer dans les 20, 30 années qui viennent. On trouvera sûrement un nouveau modèle, mais pour l'instant, on n'en a plus.
Oui, mais ces enjeux-là se sont déplacés sur Internet. D'ailleurs, j'en parle, puisque je dis à un moment, Balzac, dit « Mais que va devenir une presse sans encre ni papier ?» Parce qu'on voit à la fin la police brûler tous ces journaux corrompus et brûler leur stock de papier. Mais finalement, la presse, qu'elle soit en papier ou qu'elle soit sur Internet, est dépendante de la publicité. Les journaux sont dépendants de la publicité. Et la France est quand même un pays très particulier où beaucoup de grands médias appartiennent à des milliardaires, des industriels et des oligarques. Donc la question de l'indépendance de la presse se pose à la fois vis-à-vis de, on pourrait dire, le pouvoir, qu'il soit économique ou politique, et la question de l'indépendance économique aussi se pose. Alors il y a eu le modèle de Mediapart maintenant, qui est un journal justement, comme par hasard, sans publicité.
Mais vous remarquerez qu'il y a eu des grands journaux appartenant à des grands patrons de presse dont les articles n'étaient pas à vendre et ne sont toujours pas à vendre, et que l'un n'empêche pas l'autre. On a pu faire de l'information alors qu'il y avait de la publicité dans les journaux ou à la télévision ou à la radio. Ça n'empêche pas. Ce qui est un drame, c'est quand tous les articles sont à vendre.
Oui, mais c'est ce moment-là que Balzac décrit où tout était à vendre. Puis vous savez, moi je suis fils de journaliste, et s'il y a quelque chose qu'on apprend en se frottant à l'œuvre de Balzac, c'est d'avoir un esprit de nuance. Donc évidemment que je ne suis pas en train de dire, mais dès qu'on est journaliste, ce n'est pas le cas du tout, je le sais très bien. En plus, il ne parle pas du journalisme, cette figure anglo-saxonne qui part sur un terrain de guerre pour ramener quelque chose de la réalité et l'offrir à ses lecteurs.
Vous parlez du journalisme français, qui est un journalisme de commentaires.
Voilà, plutôt. Balzac parle du commentaire. À partir du moment où le commentaire va devenir la matière première d'une certaine presse, d'un certain média, même si le mot est anachronique pour Balzac.
Et surtout, totalement malhonnête, le commentaire. Commentaire malhonnête.
Oui, le commentaire stipendié, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est très drôle quand on lit le roman. D'ailleurs, dans sa préface, Balzac, il parle de Molière, par exemple, et il y a un esprit satirique dans le roman. Mais j'imagine que vous, le journaliste que vous êtes, quand vous lisez Illusion perdue, vous vous sentez bien que circule tout un tas d'interrogations légitime et contemporaine.
Et je me dis que Xavier Djedeli, le réalisateur, règle aussi ses comptes avec la critique, quand parfois il lui est arrivé de trouver la critique malhonnête.
Non, ça m'arrive pas, puisque finalement la critique, elle n'est pas du tout là pour être objective, elle est là pour être, avec talent et sensibilité, l'expression d'un point de vue. Après cette phrase presque chrétienne, je voudrais rappeler que mon père est journaliste, a été journaliste.
Donc, à la télévision notamment.
Voilà, il a fait un peu de tout. Il a fait de la radio, il a fait de la presse. Donc, loin de moi l'idée de faire un film punitif, tranquillement, avec bonne conscience, en étant satirique. Moi, j'essaie de mettre en crise ce qu'il y a dans le roman et qui me semble résonner avec l'époque moderne, et que ce soit un spectacle, que ce soit drôle et cinglant.
Illusion perdue, ça sort mercredi prochain en salle. Bonne chance, Xavier Djedeli.
Je vous remercie.
Europe 1.
C'est arrivé demain est terminé. On se retrouve samedi prochain. Dans quelques instants, ce sera le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, présenté par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, quel est votre invité ?
Bonjour Frédéric. Notre invité pour le grand rendez-vous sera Michel Barnier. Et pour l'interviewer, je serai entouré de Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté.
Merci Sonia, bonne émission.
Europe 1.